a-t-il un plan pour moi ? Émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Le plan de Dieu pour nous est comme une autoroute, mais nous sommes à tout moment libres d'en sortir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Psaume 139, 16.
Petite histoire écrite par John Graz. Un chanteur célèbre racontait sa première visite aux USA. Après quelques jours à New York, il s'est rendu à l'aéroport pour prendre l'avion de Nashville. Il est arrivé en retard. L'avion avait déjà quitté sa place. Quelques minutes plus tard, ce même avion s'écrasait au bout de la piste. Il n'y avait aucun survivant. « Pourquoi moi ?» se dit l'artiste. « Ce ne peut être qu'une question de chance ou de hasard. Si j'ai survécu, il y a quelque part une raison. Cela peut vouloir dire que j'aurai une carrière exceptionnelle ?» Parfois, c'est l'inverse qui se produit. Le 11 septembre 2001, le vol 93 ou 93 d'United Airlines décolle de New York à destination de San Francisco. Un passager est en retard, il croit manquer son vol. Je n'ai pas de mal à l'imaginer courant comme il m'est arrivé de courir dans plusieurs aéroports, dont celui de Chicago. Mon avion avait quitté Baltimore avec pas mal de retard. Je devais absolument prendre la dernière correspondance de Montréal. J'ai couru, couru à en perdre haleine. Lorsque je suis arrivé à la porte d'embarquement, la porte de l'avion venait d'être fermée. Grâce à Dieu, au personnel encore sur place et à l'équipage, elle fut réouverte pour me laisser embarquer. Quand je suis rentré dans la cabine, tout le monde me regardait, un peu comme si j'étais coupable du retard. C'était le dernier avion. On m'attendait à Montréal. Il fallait absolument que je sois dedans. À New York, ce jour-là, l'avion de United Airlines avait aussi du retard. In extremis, le passager réussit à le prendre. Il a dû être si heureux en prenant sa place. Ouf, j'ai réussi. Il n'a plus qu'à fermer les yeux, dire merci à Dieu et se relaxer. Il n'arriva jamais en Californie. Détourné par 4 terroristes, l'avion s'écrasa en Pennsylvanie. J'imagine les questions que ce passager a dû se poser lorsqu'il assista au meurtre de l'hôtesse de l'air et des pilotes. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Son retard, dans une condition normale, lui aurait sauvé la vie. Mais pas cette fois. Écoutons maintenant le message de John Graz.
Dieu a-t-il un plan pour moi ? Comprenez pour chacun de nous. Voilà une question qui peut paraître étrange, simpliste, enfantine, pour nos contemporains surtout. Et pourtant, la croyance qu'une force supérieure, une puissance suprême, règle le cours des choses et guide notre destinée est bien répandue. C'est moi, John Graz, qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans une de ses lettres, Voltaire écrivait « Il faut que chacun remplisse sa destinée. » « Le destin gouverne le monde », écrit Cicéron. Lui aussi croyait à la destinée. Il ajoutait « Si le destin doit vous guérir, appelez le médecin ou ne l'appelez pas, vous guérirez. » Beaucoup de nos contemporains partagent sans doute la réflexion de cette dame âgée que j'ai rencontrée dans le bus qui regrettait l'époque où sa ville était propre et sans risque, et elle me disait « On ne sait pas où on va, mais on y va sûrement. » Comme s'il y avait une force qui entraîne notre monde et nos vies vers une destinée planifiée, mais inconnue. Il y a tant de questions dans l'existence que de rejeter l'intervention de puissances extérieures fait hésiter les plus sceptiques. Mais peut-on aller jusqu'à dire que Dieu a un projet pour chacun de nous? Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, la question ne se pose pas, bien sûr. Et pour les autres, elle porterait volontiers à sourire. Un projet. Mais pourquoi un projet? La vie est faite de circonstances, de hasards, et nous tentons, bien que mal, de nous frayer un passage, un chemin au milieu de tout cela. William Bryan n'aurait-il pas raison lorsqu'il écrit « Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Il n'est pas quelque chose qu'on doit attendre, mais qu'on doit accomplir. » On peut aussi tourner cette question par la dérision, comme cette caricature qui représentait un homme découragé disant « Le destin a frappé à ma porte, mais je n'étais pas là. » Lorsque je vois des publicités qui annoncent un séminaire ayant pour titre « Soyons maîtres de notre destinée », eh bien, cela me fait réfléchir. Ça me fait réagir aussi. On peut certes avoir une influence sur notre futur par les choix que nous faisons, mais être maître de sa destinée reviendrait à dire que nous maîtrisons ce qui échappe à notre condition humaine. Je ne suis pas maître de la tempête, des accidents et de certaines maladies. Cette puissance alors, cette puissance suprême, cette force supérieure, si elle existe, serait-ce Dieu ? Un Dieu mystérieux, lointain, indéfini, puisque l'univers est une extraordinaire mécanique, est-il ce Dieu l'horloger, comme le concevaient les philosophes déistes? Rémi Chauvin, dans son livre « Le Dieu des fourmis, le Dieu des étoiles », écrit « Dieu existe, mais je le soupçonne d'être lunatique ». Alors ce Dieu, s'il existe, serait-il lunatique? Et surtout, ce Dieu, s'il existe, s'intéresse-t-il à nous? A-t-il un projet pour nous? On peut, à la limite, concevoir que certains personnages historiques ou ceux qui font la une de l'actualité ont reçu de lui un coup de pouce. Le destin, me direz-vous. Il y a en effet trop de choses mystérieuses dans la vie des êtres humains, dans l'histoire de notre monde, pour évacuer complètement l'intervention d'une puissance surnaturelle. Ce que l'on appelle le hasard, la chance, ne serait-ce pas, finalement, le signe d'une destinée qui échappe à notre logique? Cela expliquerait peut-être pourquoi ceux qui se disent athées sont si peu nombreux dans le monde et encore aujourd'hui. Par exemple, pourquoi le bébé Moïse, dans son panier flottant sur le Nil, n'a pas été dévoré par les crocodiles? Pourquoi Alexandre le Grand a survécu à toutes les batailles? Pourquoi Napoléon n'a pas été tué sur le pont d'Arcole? Il aurait suffi d'une balle bien placée et l'histoire du monde ne serait plus celle que nous apprenons. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, écrit l'auteur du livre des Proverbes, et il ajoute, mais c'est le dessein ou le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Le Dieu en qui nous croyons, le Dieu d'Abraham, de Jacob, de Pierre, de Paul, le Dieu incarné en Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, s'intéresse à chacun d'entre nous. Il n'est pas un Dieu lointain, étrange, mystérieux. Il est un Dieu présent, proche, un Dieu aimant qui non seulement s'intéresse à nous, mais qui a donné son Fils unique pour notre salut. De lui, Jésus dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Dieu avait un projet pour Jésus, bien sûr, mais aussi pour chacun des apôtres, des disciples. Paul en est un bon exemple. Il croyait donner un sens à sa vie en persécutant à outrance les chrétiens, en ravageant l'Église de Dieu, mais ce n'était pas le plan de Dieu pour lui. C'était le plan de Paul pour Paul. Il écrit « étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, son plan à lui était de protéger, d'imposer les traditions de ses pères. Mais quelque chose va se passer dans sa vie. Il va changer du tout au tout, et il écrit dans sa lettre aux Galates, chapitre 1er, verset 15, « Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. » Il avait conscience qu'en annonçant à tous la bonne nouvelle, il accomplissait le plan de Dieu pour lui. Il était là où Dieu voulait qu'il soit. Dieu avait un projet pour lui avant même qu'il soit né. Mais le plan de Dieu n'est pas seulement pour lui, il est pour tous ceux qui acceptent le Seigneur. Et l'apôtre le souligne dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 4. « En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Le sage Gamaliel suit ce principe lorsqu'il intervient pour sauver les apôtres. Il dit « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. » La question « Dieu a-t-il un plan pour moi ?» semble donc tout à fait justifiée quand on reconnaît la vraie nature de Dieu et ses motivations. Mais peut-on aller jusqu'à dire que Dieu a un projet pour chacun de nous? Avouez que pour beaucoup, cela porterait volontiers à sourire, mais ils se prennent pour qui ces gens-là?
Vous écoutez une émission proposée par John Graz à partir de son livre « Fortifie-toi et prends courage ».
Dieu avait-il un plan pour nos premiers parents? Leur création est un acte d'amour et le plan de Dieu pour eux était le bonheur éternel, l'épanouissement, la découverte des univers, la glorification du Créateur. Mais pour que ce plan s'accomplisse, il fallait tout d'abord que la créature l'accepte, puis, par l'obéissance, y demeure. Vous voyez, le plan de Dieu, c'est un peu comme une autoroute. On part de Paris, on veut aller à Genève. On n'a pas construit l'autoroute, mais on fait confiance aux ingénieurs, à ceux qui ont placé les panneaux de signalisation. Il n'y a plus qu'à suivre le trafic. On sait qu'on devrait arriver à destination sans problème. Il y aura quelques ponts, des tunnels, on ne va pas vérifier. On fait confiance à toute la chaîne des constructeurs et des spécialistes. Donc, on croit que c'est bien l'autoroute qui nous conduira à Genève. Même si on croit, on va quand même vérifier sur la carte ou sur Google. On ne sait jamais si dans la nuit, quelqu'un de mal intentionné avait changé les panneaux de direction, peu probable, mais enfin. Le plan de Dieu ne signifie pas que nous sommes transformés en robots à l'instant où nous croyons. Les informations prises, il faut se mettre en route, en ayant bien sûr vérifié l'état du véhicule, mais ce n'est pas tout. Une fois sur l'autoroute, il y aura quelques conditions à remplir. La première, c'est de rester sur la bonne autoroute. Nous avons toujours la possibilité d'en sortir, par exemple à Fontainebleau, à Dijon, ou prendre la direction de Marseille. Il faut donc maintenir le cap sur Genève. Une fois à Genève, il faut prendre la bonne sortie, sinon nous risquons de continuer sur Chamonix, Milan, ou sur Lausanne, Berne. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi respecter le code de la route. Adam et Ève étaient sur la bonne autoroute, mais ils n'ont pas respecté le code. Ils ont pris la mauvaise sortie, et avec eux, l'humanité tout entière. Le projet de Dieu pour eux n'a pas changé, mais la route n'est plus la même. Dieu ne renonce pas à notre salut, mais lorsque nous rejetons le plan A, dans son amour, il met en route un plan B. C'est ce qu'il a fait pour nos premiers parents. Le but ultime est toujours le même, le salut, la vie éternelle. Dieu avait un plan aussi pour Noé, sauver son peuple. Le même plan pour Joseph, Moïse, Daniel, Paul. Dieu avait un plan ou un projet pour Joseph, le former à la dure école de la vie pour lui confier une position dirigeante auprès de Pharaon et sauver son peuple. C'est d'ailleurs ce que Joseph dit à ses frères. « Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Genèse, chapitre 50, verset 20. Le plan de Dieu s'accomplit malgré le mal. Il ne justifie ni le mal ni le péché. Le mal ne vient pas de Dieu, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, écrit Jacques, chapitre 1er, verset 13. En nous libérant du péché, Dieu veut faire de ses enfants des ambassadeurs de son royaume et la lumière des nations. Il est vrai, me direz-vous, que nous pouvons, à la rigueur, accepter l'idée d'un projet divin pour un peuple, pour des personnages exceptionnels comme Abraham, Moïse, mais Dieu a-t-il vraiment un plan bien défini pour moi, pour vous, pour chacun de nous? Ma réponse est oui. Je citerai Ellen White qui écrit « Dieu a les yeux fixés sur ses enfants et il a un plan bien défini pour chacun d'eux. » Dieu a un plan pour chacun, un plan qui s'inscrit dans le plan pour son peuple et avec comme but ultime la vie éternelle. Ce n'est pas un plan pour moi tout seul, comme si j'étais le centre du monde sans me soucier des autres. Mais alors, comment comprendre les difficultés, la souffrance? Font-elles partie du plan de Dieu? La réponse est « et oui ». Et pourquoi? Le plan de Dieu ne s'accomplit pas dans un territoire neutre, mais sur un champ de bataille. Sur le champ de bataille, avec trois acteurs principaux. Moi, avec mes points forts, mes points faibles. L'ennemi, le mal, son action destructrice. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul écrit « le diable est animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer ». Et puis, le troisième acteur, Dieu, qui nous protège et qui nous guide. Par exemple, Dieu a un plan pour Israël. Et je cite le livre du Deutéronome, chapitre 7, verset 6. « L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Parce que l'Éternel vous aime. » En libérant son peuple de l'esclavage, Dieu voulait qu'il devienne la lumière des nations, le témoin de son amour. Il voulait que tous les peuples viennent s'inspirer de son programme éducatif, social, familial, politique. Il voulait faire du temple de Jérusalem un lieu d'adoration et de prière pour tous les peuples de la terre. Mais face au plan de Dieu, quelle est la réaction de l'ennemi? Éliminer Moïse avant qu'il ne grandisse. Éliminer Joseph avant qu'il prenne la tête de sa famille, éliminer Jésus par le massacre des enfants nouveau-nés. Joseph est vendu comme esclave par ses frères. Moïse fuit dans le désert et devient berger. Jésus et sa famille fuient en Égypte. Mais Dieu les a-t-il abandonnés pour autant? Dieu avait-il encore un plan pour eux? Pas de suspense pour nous, nous connaissons l'histoire en entier. Jésus est revenu d'Égypte, Moïse a délivré son peuple, Joseph est sorti de prison et il a sauvé sa famille. Dieu est intervenu pour eux. Il interviendra pour chacun de nous. L'Éternel, dit la Bible, fait mourir et il fait vivre. L'Éternel appauvrit, il enrichit, il abaisse, il élève. Il gardera le pas de ses bien-aimés. Ça, c'est la promesse. Il gardera le pas de ses bien-aimés. Certains peuvent avoir l'impression qu'ils traversent le désert. La voix du tentateur se fait entendre. Revenez en Égypte. C'est mieux d'être esclave que de tourner en rond. Mais avant de prêter l'oreille à de tels mensonges, posons-nous la question suivante. Dieu est-il intervenu dans ma vie ? Si nous lisons sa parole, si nous allons à l'Église, est-ce simplement la suite normale d'une vie faite de traditions, d'habitudes ? Sans l'intervention de Dieu, notre vie aurait-elle été la même ? Oui ou non ? Sommes-nous trop petits pour que Dieu s'occupe de nous ? Pensez à Marie, la jeune adolescente de Nazareth, à Matthieu, le publicain rejeté de tous, à Marie-Madeleine, la prostituée. Valait-il la peine que le Créateur s'occupe d'eux ? Imaginez-les dire à leurs proches « Ah, vous savez, moi, je crois que Dieu a un plan pour moi. Vous allez être surpris, vous allez voir ce qui va m'arriver. » Mais alors tous se seraient moqués d'eux. Et Joseph, qui en racontant ses rêves, faisait s'esclaffer ses frères. Imaginez qu'il leur dise « Un jour, attention, un jour je serai le premier ministre de Pharaon et je sauverai l'Égypte et je vous sauverai. » Et pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous, pour chacun d'entre nous ? Dieu voit les possibilités de chaque être humain. Nous sommes là pour un but. Dieu nous a donné son plan pour notre vie et il souhaite que nous atteignions le plus haut niveau de développement. Enfin, la vraie question, n'est-ce pas, quel est le plan de Dieu pour moi ? Bien, ce n'est pas cela la vraie question. La vraie question, c'est plutôt, que dois-je faire ? Pour y demeurer. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu existe et nous l'acceptons par la foi. Nous y croyons sans en connaître les détails. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront, écrit le sage, Proverbe chapitre 16, verset 3. Un jour viendra où nous comprendrons comment Dieu nous a guidés dans son royaume. Un jour, nous comprendrons que rien dans notre vie a été le fruit de la chance ou du hasard. La main de Dieu était là du début à la fin. L'auteur du psaume 75, verset 7, écrit « Ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vienne l'élévation, mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Certains me disent « Je ne sais pas si je suis dans le plan de Dieu, car pour l'instant tout va bien. Je suis heureux comme je suis, je n'ai pas d'ambition excessive, je ne finirai sans doute jamais directeur, président ou présidente, dirigeante. Alors, est-ce que je suis dans le plan de Dieu ? Ma question est-ce que vous êtes heureux ? Et si vous êtes heureux, n'est-ce pas le plan de Dieu que chacun de ses enfants soit heureux ? Le bonheur, c'est la plus grande des réussites. Alors remerciez Dieu chaque jour pour votre bonheur et laissez Dieu continuer de vous guider. En fin de compte, la vraie question n'est pas quel est le plan de Dieu, mais plutôt comment y demeurer. Reprenons les exemples de Noé, Joseph, Moïse, Daniel, Paul, Pierre et bien sûr Jésus. Jésus qui, quelques heures avant son arrestation, combat, résiste et finit par s'en remettre à son Père avec confiance, mais que ta volonté soit faite. Et non la mienne. Nous demeurons dans le plan de Dieu en lui restant fidèles. En lui restant fidèles, en mettant nos talents à son service, en le glorifiant, nous lui donnons la possibilité d'agir et de conduire notre vie. Souvenez-vous de Joseph. Ellen White écrit à son sujet, ayant été fidèle dans chacun, dans chacune de ses étapes, des étapes de sa vie, de la plus humble à la plus élevée, il pouvait maintenant occuper les plus hautes fonctions. Ce qui fait écho aux paroles de Jésus, Matthieu chapitre 25, verset 21, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je te confierai beaucoup. » Soyons en paix, Dieu veille sur nous, soyons vigilants, l'adversaire est en embuscade, mais, comme l'écrit Jacques, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soyons confiants. Dieu veut que notre vie soit une grande et belle aventure utile à notre famille, à notre communauté, à notre peuple. Une aventure qui aura pour aboutissement la vie éternelle à ses côtés, le bonheur infini, la joie de retrouver ce qu'on aime. Cela peut sembler trop beau pour être vrai, oui, peut-être, et pourtant, C'est logique. Si le Seigneur nous aime au point de donner sa vie pour notre bonheur éternel, si Dieu est, comme Jésus l'appelle sur la croix, Papa, pour nous, il agira, comme tout bon parent, en faisant le maximum pour notre réussite ici-bas. Chaque parent voudrait que ses enfants bénéficient de leur savoir, de leur expérience. Nous aimerions leur transmettre en tant que parents un bon projet qui tiendra compte de ce que la vie nous a appris et aussi de leurs talents. Ma fille, tu devrais faire ceci, faire cela. Mon fils, je vois que tu es doué dans cette matière, alors pourquoi ne pas aller étudier dans cette université ou apprendre ce métier? Je connais des gens qui pourront t'aider. Vous voyez, on a tous, on voudrait tous transmettre à nos enfants l'expérience de notre vie et les circuits que nous avons utilisés parce qu'on sait ceux qui vont dans la bonne direction et ceux qui n'y vont pas. On a tous de merveilleux projets pour nos enfants. Alors, imaginez Dieu, Dieu qui connaît tout, qui voit le futur et qui nous connaît nous-mêmes mieux que quiconque. Pourquoi n'aurait-il pas un extraordinaire projet pour nous? Eh bien, ce projet, c'est son plan. C'est le plan de Dieu.
Pour être pratique.
Et maintenant, pour être pratique, première leçon, je crois que Dieu a un plan pour moi et pour chacun de nous. Oui, croire que Dieu a un plan pour moi, mais aussi pour chacun. La deuxième leçon, prier. Je prie pour qu'il me donne la direction à suivre. Et puis la troisième leçon, prier encore. Je prie pour que Dieu me donne la force et le courage d'avancer pas à pas avec patience et détermination.
Cette émission vous était proposée par John Graz. Retrouvez le contenu de toute la série dans son livre « Fortifie-toi et prends courage ».